Les séminaires du Collège de France.
C'est donc pour moi un immense plaisir et un immense honneur de recevoir Dr Céline Bellard, qui est chercheuse au CNRS et qui est directrice de recherche au CNRS et qui travaille à l'Université Paris-Saclay. C'est quelqu'un que j'estime énormément scientifiquement, qui a gagné la médaille de bronze du CNRS, qui a gagné le prix Joliot-Curie de l'Académie des sciences, qui a gagné le prix L'Oréal UNESCO. Et je vais m'arrêter là pour ne pas la faire trop rougir. Mais vous avez donc le privilège d'avoir une des forces de la science écologique en France et dans le monde, qui va donc vous présenter un aspect sur l'écologie fonctionnelle des sciences de l'invasion. Merci Céline.
Merci Franck. Et ce que Franck ne dit pas également, c'est que en fait, donc Franck était mon directeur de thèse donc en 2010, et que c'est lui qui m'a lancé sur cette thématique des invasions écologiques, et notamment dans le contexte de la macroécologie que je vais vous présenter aujourd'hui. Et donc on continue à travailler ensemble puisqu'on est dans le même laboratoire. Donc je ne vais pas vous parler, vous définir les invasions biologiques. Je pense qu'avec l'ensemble des cours auxquels vous avez assisté, vous avez une idée maintenant assez précise de ce que c'est une invasion. Mais je vais vous introduire un peu la notion d'écologie fonctionnelle. Et qu'est-ce que c'est finalement ? Donc l'écologie fonctionnelle, c'est vraiment une discipline au sein de l'écologie qui va au-delà de la simple notion d'espèce. Alors j'ai déjà mis « simple notion d'espèce » entre guillemets, parce qu'en réalité la notion d'espèce, elle est loin d'être simple en écologie. Mais pour aujourd'hui, on va dire que c'est relativement simple par rapport à la discipline de l'écologie fonctionnelle. Et ici, si je vous demande tout simplement quelle est la diversité observée, a priori, ce que vous allez faire de manière un peu automatique, c'est compter le nombre d'oiseaux sur cette slide. Et vous allez me dire, il y a 15 espèces. Et donc ça, en fait, la question que j'aurais dû vous poser plus précisément, c'est quelle est la richesse taxonomique observée. Et compter le nombre d'espèces, le nombre d'axons, c'est une façon de mesurer la biodiversité. Et moi, la façon dont j'aborde cette question de biodiversité, c'est pas uniquement avec cette notion d'espèce, parce que comme on peut le voir ici, en fait, on va dire 15 espèces, mais en fait, elles sont toutes très différentes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'évaluer et de mesurer cette richesse fonctionnelle. Donc dans la notion richesse fonctionnelle, on a le terme fonction. Donc en fait, ce qu'on essaye de savoir, ce qu'on essaye de mesurer, c'est pour ces oiseaux, par exemple, quelle va être leur fonction au sein de l'écosystème. Et donc pour ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer plein de traits. Hop, je vais faire comme ça. Plein de traits écologiques différents. Par exemple, la longueur des ailes. Ça va nous renseigner sur la capacité de mobilité des oiseaux. Est-ce qu'ils peuvent se disperser très loin ou est-ce qu'ils ont une capacité de mobilité très limitée ? La taille du bec. Ça va nous renseigner sur leur régime alimentaire. Vous vous rappelez les pinsons de Darwin ? Selon la taille du bec, la force du bec, on peut savoir est-ce qu'ils sont plutôt granivores, herbivores, insectivores, etc. Et donc, en écologie fonctionnelle, ce qu'on fait, c'est de mesurer plein de traits différents, des traits morphologiques, des caractéristiques écologiques sur les habitats qui vont être utilisés par l'espèce, sur les espèces qui vont être mangées, sur les strates où l'espèce va aller se nourrir ou se cacher, et des caractéristiques qui peuvent être liées aussi à la reproduction. Et donc, on va mesurer plein de traits différents sur ces différentes espèces pour essayer de s'approcher de la richesse fonctionnelle. Finalement, qu'est-ce qu'elles représentent ces espèces en termes de traits, en termes de comportement et en termes de fonction au sein de l'écosystème. Et donc, par exemple, ici, si on s'intéresse à ces deux îles, on a trois espèces sur chacune de ces deux îles. Donc, d'un point de vue de la richesse taxonomique, on pourrait dire que ces îles, elles sont équivalentes. On a trois espèces sur les deux îles, donc l'une ou l'autre ont la même diversité. Mais quand on regarde justement les caractéristiques de ces espèces, c'est là qu'on voit les différences. Donc ici, j'ai fait un schéma vraiment très simplifié où on a classé les espèces selon la taille du bec, ici, et selon le nombre d'œufs dans la portée. Et en fait, on a une variété de valeurs de traits pour les différentes espèces qui est assez importante. Pour la première île, on retrouve en fait cet oiseau-là et ceci. Et ça permet de mesurer en fait l'étendue des valeurs de traits pour ce groupe d'espèces. Si on le fait pour La deuxième île, on a une étendue qui est plus grande avec ces espèces-là, notamment en termes de portée du nombre d'œufs. Donc, de la même façon, là, c'est un schéma simplifié, on le fait pour deux traits. En réalité, quand on travaille sur les traits morphologiques de comportement de reproduction, on le fait dans un espace multidimensionnel. Et on va regarder la densité des oiseaux au sein de cet espace multidimensionnel pour mesurer la richesse fonctionnelle de ces espèces. Et donc la diversité fonctionnelle, c'est tous les traits qui sont mesurables au niveau de l'individu, des caractéristiques morphologiques, comportementales, des traits d'histoire de vie, qui vont affecter la performance de ces individus au sein de leur communauté, soit reproduction, survie, croissance, etc. Et pourquoi en fait on s'intéresse à l'écologie fonctionnelle? Pourquoi c'est important? Et bien, comme je le disais, au lieu de considérer les espèces comme des entités similaires les unes avec les autres, en fait, ça nous permet de se rapprocher de leur rôle au sein de l'écosystème et de la fonction qu'elles ont au sein de leur communauté et de leur écosystème. Et donc, par exemple, pour les oiseaux, par exemple, en ayant les traits liés au bec, on peut savoir si elles vont plutôt avoir des fonctions de pollinisation, de dispersion des graines, selon leur régime alimentaire. Si ce sont plutôt des top prédateurs, et donc est-ce qu'ils vont offrir des systèmes de régulation de l'ensemble de la communauté. Et donc cette notion de rôle fonctionnel des espèces, c'est en tout cas dans le cadre des invasions biologiques, une discipline qui est plus récente et qui est intéressante, puisqu'on va pouvoir savoir finalement pas uniquement quelles sont les espèces qui vont disparaître ou qui vont être vulnérables ou qui sont envahissantes, mais aussi quelles sont leurs caractéristiques. Et donc ça fait vraiment suite au travail que Franck a montré sur les fourmis en s'intéressant finalement au profil de ces espèces. Et moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement dans le cadre des invasions biologiques, c'est les écosystèmes insulaires. Alors, pourquoi les écosystèmes insulaires? En fait, ces écosystèmes, ils ont été envahis depuis longtemps par les espèces envahissantes. Ce sont des bons systèmes, zones d'étude également, et ils ont des particularités qui font qu'ils sont particulièrement vulnérables aux invasions biologiques. Donc déjà, pour contextualiser, les écosystèmes insulaires et les îles de manière générale, on en a plus de 300 000 à l'échelle mondiale, et ça représente 6,7% de la superficie terrestre mondiale. Et c'est à peu près 180 000, 200 000 qui font plus d'un kilomètre carré. On considère que les autres, on va les laisser de côté d'un point de vue de biodiversité, qui sont plutôt des petits rochers ou des petites zones de moins d'un kilomètre carré. Et donc dans cette surface qui est relativement faible, finalement par rapport au continent, on a une biodiversité qui est remarquable. C'est-à-dire qu'on va avoir une proportion d'espèces beaucoup plus importante sur les écosystèmes insulaires que sur leur équivalent sur les continents. Donc pour un hectare sur les continents, on va avoir 15% de plus d'espèces terrestres sur les îles pour ce même hectare. Parce que justement, on a une diversité qui est beaucoup plus importante. Et par ailleurs, cette diversité, ce n'est pas n'importe quelles espèces, ce sont particulièrement des espèces endémiques. Donc les espèces endémiques, c'est des espèces qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et de la même façon, pour une espèce endémique sur le continent, on va en avoir 8 fois plus dans les îles. Donc les espèces dans les îles, c'est déjà une surreprésentation de la biodiversité, malgré une surface de 6% de surface terrestre. Et en plus, on a une biodiversité qui est remarquable, avec un nombre d'espèces endémiques extrêmement élevé. Et pourquoi s'intéresser aux écosystèmes insulaires? C'est aussi parce que si on s'intéresse à la crise de la biodiversité, 80% des extinctions recensées aujourd'hui par l'IUCN ont eu lieu dans des écosystèmes insulaires, principalement, par rapport au continent. Et si on regarde les différents groupes taxonomiques qui ont été étudiés, en fait, 95% des extinctions d'oiseaux, donc là je parle d'extinctions qui sont relativement récentes d'un point de vue évolutif, on est sur des périodes depuis 1500, on est à 95% de ces extinctions d'oiseaux qui ont eu lieu sur des îles. 81% pour les reptiles sur les îles, et près de la moitié des amphibiens et des mammifères aujourd'hui éteints depuis 1500 viennent aussi des écosystèmes insulaires. Donc étudier les écosystèmes insulaires dans le cadre de la crise de biodiversité, ça a aussi un intérêt parce qu'on a une surreprésentativité des extinctions dans ces écosystèmes. Et donc pourquoi finalement on a des extinctions qui sont particulièrement importantes dans ces écosystèmes insulaires, eh ben, la première en fait, menace, ce sont les invasions biologiques. Donc ici, on a regroupé, chaque point en fait, représente une espèce éteinte qui a été documentée, et elle est liée avec sa menace. Donc là, ce sont les invasions biologiques. On a une grande partie des espèces qui sont éteintes sont liées à la menace seule des invasions biologiques. Et on a une partie ici des espèces éteintes qui sont liées à la fois à la menace des invasions biologiques et à la menace de la surexploitation ou de la fragmentation de l'habitat, destruction de l'habitat à des fins de culture et d'agriculture. Donc tout l'intérêt d'étudier en fait ces écosystèmes, c'est aussi parce que les invasions biologiques, c'est une menace prédominante dans ces endroits. Et finalement, pourquoi ? Pourquoi ils sont si vulnérables aux invasions biologiques et de manière disproportionnément vraiment vulnérables aux invasions biologiques ? Alors, on a plein d'études qui ont été faites sur ce sujet. On a un ancrage théorique aussi assez important depuis les années 60 avec les travaux de MacArthur et Wilson qui montrent qu'en fait, déjà, la nature géophysique des îles, le fait que ce soit des surfaces limitées, qui sont isolées des autres continents, soit de manière très distancée au continent, soit parce qu'on est dans des fonctionnements de type archipel, va faire qu'on va avoir une diversité qui est plus ou moins importante dans ces îles. C'est-à-dire que plus les îles sont éloignées des continents, on peut avoir une richesse qui va dépendre en fait de ces caractéristiques. Et donc l'isolement de l'île par rapport au continent et aux autres îles et la fragmentation, la superficie sont des caractéristiques des îles qui font qu'elles sont particulièrement vulnérables. Une deuxième caractéristique qui explique cette vulnérabilité, c'est directement par rapport aux espèces qui se développent en fait et qui ont évolué sur ces îles. Elles ont d'un point de vue démographique et génétique des spécificités, notamment comme les îles sont des surfaces plus petites que sur les continents, globalement on a des aires de distribution des espèces qui sont aussi plus petites. Et du coup, on a une densité plus faible, moins d'individus et donc aussi une diversité génétique qui va être plus faible. Et tout ça, ça va conduire à une vulnérabilité accrue face aux menaces, et pas uniquement aux invasions biologiques, en réalité. Et la troisième caractéristique principale qui explique cette vulnérabilité, c'est le syndrome d'insularité. En fait, dans les îles, on a tout un ensemble de modifications morphologiques, de traits, de comportements, qui sont vraiment spécifiques à la situation insulaire. Donc d'un côté, ça va conduire à un taux d'endémisme assez élevé, c'est-à-dire que les espèces qu'on retrouve sur les îles, on les retrouve nulle part ailleurs. Les caractéristiques qu'elles ont sont vraiment spécifiques aux îles, mais d'un autre côté, ça leur donne une vulnérabilité accrue. Donc par exemple, on a le cas du kiwi, les oiseaux qui ont une perte de la capacité à voler, évidemment, on voit assez facilement comment ces oiseaux qui ne peuvent pas se déplacer, peuvent pas échapper aux prédateurs ou échapper à une menace, sont beaucoup plus vulnérables que des oiseaux qui sont capables de se déplacer, par exemple sur une autre île ou sur le continent quand la menace est présente. On a également tout un cortège de comportements de naïveté, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'espèces sur les îles qui ont été développées sans la présence de prédateurs. Donc d'un point de vue évolutif, elles n'ont pas développé de comportement d'échappement, d'agressivité, et donc elles vont être complètement naïves et être sensible donc aux prédateurs. Et ça vaut également pour les plantes, par exemple, pour avoir l'absence, par exemple, d'épines, qui va expliquer que elles vont être beaucoup plus sensibles aux herbivores que des plantes sur les continents qui ont développé finalement des mécanismes évolutifs pour faire face aux menaces. Et donc moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui à vous présenter, c'est justement, on sait que dans les îles, on a plein de profils différents, des caractéristiques spécifiques des espèces propres aux écosystèmes insulaires, et les invasions sont vraiment une des menaces prédominantes. Et donc, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est d'étudier les profils écologiques des espèces à la fois qui envahissent, donc le profiling, comme Franck l'a présenté avec les fourmis. Quelles sont les espèces qui sont envahissantes, quelles sont leurs caractéristiques, mais également quelles sont les espèces qui sont vulnérables aux invasions biologiques et pourquoi, finalement, pourquoi à l'échelle même de l'espèce, on a ces caractéristiques. Et donc les travaux que je vais vous présenter sont issus de deux thèses principalement, la thèse de Clara Marino et la thèse de Camille Bernery qui a été faite également en co-supervision avec Franck. Donc le postulat théorique par lequel on a commencé, c'est de se dire que le profil écologique des espèces menacées par les invasions biologiques, il est à l'opposé des espèces qui sont vulnérables. C'est ce qu'on appelle le « two sides of the same coin hypothesis ». D'un côté, on se dit que ce qui rend vulnérable ne rend pas envahissant. Et donc pour ça, on a étudié plein de traits différents. Donc le premier, le trait de la mobilité, par exemple. Donc comme je vous le disais, on a des espèces au sein des écosystèmes insulaires qui ont perdu leur capacité de vol. Donc on a mesuré en différents gradients de la capacité de vol vers des espèces comme la bernache du Canada ici, qui est capable de faire 2400 km en 24 heures. Donc on voit bien la différence, finalement, au sein du même groupe de caractéristiques sur la mobilité. Donc on a regardé le régime alimentaire également, donc pour différents groupes d'oiseaux et globalement à la fois des traits morphologiques, géographiques, etc. Et donc d'un côté, on a 450 oiseaux natifs menacés par les invasions biologiques et de l'autre côté, 400 oiseaux exotiques pour lesquels on peut faire la distinction des espèces qui sont avec un faible impact et des espèces qui sont avec un fort impact ou des espèces qui sont très vulnérables ou moyennement vulnérables. Et l'idée, c'est d'avoir une approche statistique, c'est de regarder dans un espace multidimensionnel quelles sont les caractéristiques associées à ces quatre groupes spécifiques. Tout d'abord, ce qui est intéressant de montrer, c'est que effectivement, ici, on peut distinguer les espèces vulnérables des espèces invasives pour le groupe des oiseaux. Et les principales caractéristiques qui ressortent pour expliquer cette différence de profil entre les groupes d'espèces, c'est le profil d'abord géographique. C'est-à-dire que ici, par exemple, on a d'abord les espèces qui sont vulnérables, elles viennent effectivement des écosystèmes insulaires. Alors que les espèces envahissantes, elles viennent plutôt des continents. C'est-à-dire que c'est assez rare d'avoir une espèce d'oiseau insulaire qui va devenir envahissante sur les continents. Par contre, les espèces sur les continents vont devenir envahissantes dans les écosystèmes insulaires. Et pour préciser ce profil géographique, on a regardé également l'origine des espèces. Est-ce qu'il y avait des régions du monde qui avaient plus, qui apportaient plus d'espèces envahissantes ou des espèces qui étaient plus vulnérables dans certaines régions? Donc effectivement, par exemple, on voit que le contexte en Afrique, en Australie, explique les espèces qui sont très vulnérables aux invasions biologiques. Et d'un autre côté, on a plutôt les espèces qui sont déjà présentes de manière naturelle sur plusieurs continents qui vont être capables en fait, de s'établir sur les îles et devenir envahissantes. Ce qui est assez logique, puisque si elles sont présentes sur différents continents déjà dans leur aire de répartition naturelle, ça veut dire qu'elles ont été confrontées à une grande variété d'habitats, de milieux différents et même de ressources différentes, et donc elles ont eu le temps de s'adapter au cours du temps à ces différentes conditions. Donc elles sont plus en mesure de finalement s'établir dans des nouveaux environnements auxquels elles n'ont pas été confrontées. La deuxième caractéristique qui ressort tout particulièrement, c'est la taille de la portée, qui est liée finalement au succès de reproduction de ces espèces. Et ce qu'on peut voir, c'est que les espèces envahissantes qui ont un fort impact ont une taille de portée beaucoup plus élevée que le groupe des oiseaux contrôle, finalement mondiaux, par rapport aux espèces également qui sont ici vulnérables. Donc ici, on a le groupe finalement des oiseaux mondiaux qui représente 11 000 espèces à peu près. Et donc ça nous a permis de faire vraiment la comparaison entre nos espèces envahissantes ici et nos espèces vulnérables aux invasions biologiques. Et donc on voit vraiment ce gradient de valeur. En ce qui concerne la masse corporelle, de la même façon, les espèces qui sont les plus grosses sont aussi les plus envahissantes. Et on a des tailles intermédiaires qui correspondent aux espèces insulaires, qui sont aussi de taille importante, qui vont être particulièrement vulnérables aux invasions biologiques. Et par ailleurs, une des caractéristiques qui est régulièrement sortie pour les oiseaux, c'est le niveau trophique. C'est-à-dire, est-ce que leur régime alimentaire il est plutôt omnivore, plutôt carnivore, herbivore, etc. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'on voit très peu de différence finalement entre le groupe contrôle des oiseaux, des 11 000 oiseaux qu'on connaît. Mais par contre, pour les oiseaux envahissants, là, on voit des différences assez importantes avec l'herbivorie qui est particulièrement prédominante sur ce groupe d'envahissants. Donc si on fait une conclusion rapide sur ce profil écologique des invasions biologiques pour le cas des oiseaux, on est capable de faire la distinction par rapport au profil géographique, au régime alimentaire, à la taille de la portée, au niveau de spécialisation de l'habitat également, même si je ne vous ai pas montré les résultats. Et on est même capable de faire la distinction entre les espèces qui sont envahissantes, mais qui vont avoir un faible ou un fort impact. Par contre, les traits morphologiques ne sont pas révélés comme être vraiment des facteurs prédominants pour expliquer, en tout cas pour le groupe des oiseaux, ce caractère envahissant ou de vulnérabilité. Donc ce qu'on en fait, on a continué à faire, c'est d'explorer finalement ces profils sur d'autres groupes taxonomiques. Donc je ne vais pas vous présenter sur tous les groupes taxonomiques, on a fait également sur les amphibiens, les reptiles et les mammifères, mais je voulais vous parler des poissons, qui est un groupe finalement assez différent pour les invasions biologiques. Et donc ces travaux, ils ont été menés dans le cadre de la thèse de Camille Bernery. Et donc de la même façon, on a mesuré 13 traits différents liés à la morphologie des poissons, et cette fois, on a regardé uniquement le succès lié aux invasions biologiques. Donc avec des traits liés à l'hydrodynamisme, aux soins parentaux, au positionnement dans la colonne d'eau, etc. Et pour mesurer ce succès des invasions biologiques, on a deux critères différents. Le nombre de bassins, c'est-à-dire que est-ce que l'espèce elle a été capable de s'établir dans un nombre de bassins restreints, 1, 2, 3, 4 bassins, ou est-ce qu'on est à plus de 20, 30, 50 bassins à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est un des premiers indicateurs. Le deuxième indicateur, c'est est-ce que l'espèce est capable de s'établir en dehors de son aire géographique d'origine. Donc si on a une espèce qui est d'origine en Amérique du Sud, est-ce qu'elle est capable de... Est-ce qu'on va la retrouver en Afrique ou en Europe, ou finalement, est-ce que les zones de bassins envahis vont rester en Amérique du Sud? Donc ça, c'est les deux critères qu'on a utilisés pour le succès d'établissement. Et donc ici, vous avez une représentation qui a été réduite à deux dimensions de l'espace multidimensionnel pour les poissons. Et on va s'intéresser à deux traits en particulier qui vont ressortir tout particulièrement chez les poissons. Le premier, c'est ce trait-là, l'amplitude de température, qui est un des facteurs prédominants pour les poissons pour expliquer leur capacité à s'établir en dehors de leur aire d'origine. Donc en fait, l'amplitude de température, on la mesure par rapport à la température dans les bassins où elle est déjà établie dans sa zone naturelle. Et est-ce que la question, c'est est-ce que ça, c'est un bon indicateur pour savoir est-ce qu'elle va être capable de s'établir ailleurs? Et la réponse est oui. C'est-à-dire que quand on a une gamme de température déjà élevée dans l'aire d'origine, l'espèce, elle sera plus à même de s'établir en dehors de son aire d'origine. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est un critère qui est finalement assez simple à mesurer, et ça veut dire que même avec des critères assez simples à mesurer, on peut prédire les prochaines espèces envahissantes. Le deuxième critère qui était plus étonnant, c'est les soins parentaux chez les poissons. Donc chez les poissons, on a un gradient de soins parentaux qui vont de aucun soin parentaux pour les juvéniles, vers des soins parentaux où là on a de la territorialité par rapport à garder le nid ou pas et avoir un comportement agressif par rapport aux autres espèces qui s'approchent du nid, et où à l'autre opposé du gradient, on a des soins parentaux liés au fait que les œufs sont gardés sur une partie du corps du poisson. Et donc ce qu'on voit, c'est que les poissons qui ont des soins parentaux élevés et sophistiqués vont plutôt être des espèces qui vont être capables de s'établir également plus facilement dans d'autres environnements. Et donc ça, on a deux raisons. La première, c'est que le taux de survie, il est plus élevé. Finalement, ce n'est pas la quantité de juvéniles qui va être produit qui va être important, mais vraiment le soin apporté aux juvéniles pour assurer leur survie dans des nouveaux environnements. Et c'est ça qui va compter. Et la deuxième raison qui explique que ces soins parentaux ressortent comme une des caractéristiques principales, c'est que les espèces de poissons qui vont être introduites par l'homme, en fait, elles sont aussi sélectionnées parce que les juvéniles, ils se reproduisent facilement et on a des taux de reproduction qui sont assurés par ce comportement. Et donc, finalement, nous, pour l'aquariophilie, c'est plutôt ce type d'espèce qui va être sélectionné. Donc, on a déjà un filtre, pas uniquement écologique, mais également un filtre humain de quelle espèce nous, on sélectionne, qui vont ensuite être introduites, même si ce n'est pas de manière volontaire. Et donc, je ne vous ai pas présenté toutes les caractéristiques qu'on a étudiées, mais globalement, ce qui explique le succès, c'est plutôt les grandes tailles de poissons, des poissons qui vont avoir un hydrodynamisme élevé, avec un régime alimentaire beaucoup plus varié, évidemment, puisque ce sont des espèces qui sont en général généralistes, plus opportunistes, avec un niveau de soins parentaux également élevé et une plus grande amplitude de température dans leur bassin natif. Alors, la conclusion de ça, c'est que on sait que certains traits sont sélectionnés par l'homme déjà en amont, mais également écologiquement, qui vont expliquer l'établissement de ces espèces, qui vont devenir envahissantes. Et donc, elles vont arriver finalement, ces espèces, sur les îles avec certains profils. Ce n'est pas un échantillon aléatoire d'espèces qui vont arriver sur les îles, pour expliquer le succès. Et d'un autre côté, pour les espèces qui sont vulnérables, on a certains traits, certaines caractéristiques liées au contexte insulaire qui vont expliquer que certaines espèces vont être plus vulnérables. Donc ce n'est pas uniquement le nombre d'espèces au final qui va changer dans les îles, mais toute la diversité des traits qui sont représentés par ces espèces. C'est-à-dire que on va pas, sur une île donnée, on pourrait estimer que lorsque les invasions biologiques, on a beaucoup d'espèces qui sont introduites, ça va augmenter localement la diversité locale. Mais en réalité, ce n'est pas uniquement le nombre d'espèces qui va changer, c'est toutes leurs caractéristiques et du coup tout le fonctionnement derrière des écosystèmes. Et donc ce qu'on a fait par la suite, c'est d'essayer d'établir des scénarios d'extinction de cette diversité fonctionnelle en raison des invasions biologiques. Ce qu'on voulait voir, c'est pas uniquement combien d'espèces pourraient disparaître à l'avenir en raison des invasions, mais quels seraient leurs profils et les conséquences pour les écosystèmes. Donc pour ça, on a utilisé la liste rouge de l'UICN, donc qui recense donc, pour près de 10 000 espèces d'oiseaux leur risque d'extinction aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que est-ce que les espèces elles sont en danger critique d'extinction, en danger vulnérable. Donc pour ça, en fait, on a des données sur plusieurs années de l'aire de répartition des espèces, du nombre d'individus qui restent dans les populations. Et à partir de ça, on peut statuer est-ce qu'elles sont quasi menacées, vulnérables, ou même est-ce qu'on a déjà des espèces éteintes, finalement. Quand on revient sur le terrain au bout de 10 ans, 20 ans, et qu'on n'observe plus d'individus, on considère l'espèce éteinte. Et donc à partir de cette information sur le risque de ces espèces, et on a également d'autres informations qui sont quelles sont les menaces associées à ce risque d'extinction. Est-ce que ce sont les invasions biologiques qui sont les principales menaces pour expliquer ce risque? Est-ce que ce sont d'autres types de menaces? Donc on a utilisé toutes ces informations et on a identifié plus de 8000 espèces pour lesquelles on pouvait donc avoir ces informations à la fois sur leurs traits et à la fois sur leur risque d'extinction et 499 espèces qui sont menacées par les invasions biologiques d'extinction d'ici à 2050. Donc ce qui veut dire que dans 50 ans, en utilisant ces données de la liste UICN, on estime que 6% de la richesse taxonomique des oiseaux menacés d'extinction par les invasions biologiques. Donc c'est 6% de ce groupe qui pourrait disparaître en raison des invasions biologiques. Donc on pourrait se dire finalement c'est pas une menace qui est très importante d'un point de vue quantitatif si plus de 90% du nombre d'oiseaux reste sans s'intéresser aux invasions biologiques. En réalité, quand on regarde justement les caractéristiques de ces espèces, leurs traits, leurs comportements, ces 6% deviennent 27% de la richesse fonctionnelle de ce groupe. Et donc c'est là où ça devient important parce que on ne s'intéresse pas uniquement au nombre d'espèces, mais à ce qu'elles représentent en termes de fonction. Et donc ça veut dire que près d'un tiers de ce groupe pourrait perdre leur richesse fonctionnelle, parce qu'en réalité, ce sont vraiment des espèces avec des caractéristiques spécifiques. Et donc ce qu'on a regardé, c'est quelles sont ces caractéristiques spécifiques qui risquent de disparaître d'ici à 2050. Et donc, en termes de régime alimentaire, par exemple, ce sont plutôt des espèces qui vont avoir un régime alimentaire sur les animaux, moins des herbivores. Ce sont plutôt des espèces qui sont diurnes, des espèces qui vont se nourrir soit au niveau du sol, au niveau de l'eau, donc plutôt dans la strate assez basse de la végétation, ou multiples. Ce sont des espèces qui vont être spécialistes de 1, 2, 3 habitats, donc peu d'espèces généralistes et des espèces qui sont plutôt en termes de masse corporelle assez élevées. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça montre que les espèces que l'on va perdre, c'est des espèces qui ont des caractéristiques spécifiques, qui sont spécialistes des habitats, spécialistes en termes de régime alimentaire également. Et donc, quand on n'a qu'une seule espèce dans une île qui remplit la fonction de se nourrir de telles plantes pour assurer sa pollinisation, eh ben, ça veut dire que si elle disparaît, la pollinisation disparaît également. Et donc, c'est tout un effet cascade au sein de l'écosystème qui risque de disparaître parce que ce sont des espèces qui remplissent des fonctions spécifiques, qui sont uniques dans les îles et qu'on n'a pas de redondance d'autres espèces qui pourraient les remplacer finalement. Et donc les scénarios justement de perte fonctionnelle en raison des invasions biologiques à l'avenir nous montrent que c'est près d'un tiers de la richesse fonctionnelle de ce groupe complet qui risque de disparaître. C'est un peu moins pour les mammifères, mais globalement, on a aussi une perte estimée pour les mammifères qui est beaucoup plus élevée d'un point de vue fonctionnel que d'un point de vue taxonomique. Et ce sont des espèces plutôt spécialistes et des gros oiseaux, donc comme par exemple ici, hein, avec le kiwi, qui est une espèce qui va plutôt être territoriale, qui va également avoir en fait, l'absence de capacité de vol, qui va l'empêcher finalement de s'échapper par rapport aux prédateurs, et donc qui va être complètement vulnérable aux prédateurs comme les rats, les chats, etc. Et une espèce qui va également se nourrir au niveau du sol, comme on a pu le voir avant, avec son bec en fait, qui va aller chercher dans la terre des végétaux et des petits animaux comme des amphibiens, des écrevisses, etc. On a également beaucoup d'espèces qui sont des oiseaux marins et des espèces qui sont situées sur des îles comme à Hawaï. On a beaucoup d'espèces qui ont disparu, qui avaient des fonctions spécifiques de pollinisation et qui ne pouvaient plus être remplies finalement par les populations natives et locales. Et donc, quelles sont les solutions pour limiter leurs impacts et pour essayer finalement de faire face à cette menace des invasions biologiques? Donc, toute une partie des travaux qu'on essaye d'effectuer, c'est pas uniquement de regarder le profil des invasions biologiques, le profil des espèces qui risquent de disparaître, mais essayer d'aller jusqu'au bout de la chaîne et de se dire, OK, à partir de ces informations-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger la biodiversité et pour protéger les espèces qui sont vulnérables aux invasions biologiques. Donc c'est un travail qu'on a mené dans le cadre de la thèse de Clara Marino et en collaboration avec Filipa Soares, qui est chercheuse postdoctorante au Portugal. Alors je pense que vous avez dû voir ce graphe probablement par Franck en début de ce groupe de cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour limiter l'impact des invasions biologiques, on a tout un panel de solutions qui vont de la prévention, de la détection précoce pour les espèces qu'on vient juste d'intercepter, pour lesquelles on peut encore faire de l'éradication, et de la gestion de ces espèces avec de l'éradication. Donc, dans les îles, on a plein de mesures d'éradication qui ont été mises en œuvre, qui peuvent être efficaces, mais ensuite, il faut que l'écosystème soit capable de se restaurer. Et donc, avant d'arriver finalement à ces étapes d'early detection et enfin de détection précoce pardon et de gestion, on a également ce qu'on appelle la prévention. Et moi, ce que je vais vous présenter là, c'est vraiment une option parmi toutes celles qui existent, mais une option qui est ciblée pour protéger finalement cette diversité fonctionnelle, qui est celle qui m'intéresse aujourd'hui. Et donc le but des travaux qu'on a effectués ici, c'était d'identifier et de protéger les espèces les plus menacées par les invasions biologiques et celles qui contribuent le plus à la diversité fonctionnelle. Puisque, ok, on sait que les invasions, elles menacent la diversité fonctionnelle, mais on a certaines espèces qui vont ressortir comme particulièrement exceptionnelles d'un point de vue de leurs caractéristiques. Et donc, c'est celles-là qui vont m'intéresser. Et donc, pour faire ça, on a mis en place un indice d'irremplaçabilité fonctionnelle des espèces chez tous les tétrapodes. Donc les amphibiens, les oiseaux, les reptiles et les mammifères. Donc ici, on est de nouveau dans notre petite relation entre le trait numéro 1, trait numéro 2, donc par exemple la taille de portée, la taille du bec. L'idée, c'est de regarder par rapport au barycentre moyen de l'ensemble des points qui représentent finalement une espèce et leur positionnement par rapport au trait. Est-ce que l'espèce, elle est très éloignée du centre ? Est-ce qu'en moyenne, on a une espèce qui est très grande par rapport à la moyenne de la population générale ? Ou est-ce qu'elle est assez proche du centre ? Elle a une taille moyenne qui est relativement proche de la moyenne. Donc ça, ça nous permet de mesurer finalement la spécialisation fonctionnelle. Alors là, je vous présente pour deux traits, mais on est dans un espace multidimensionnel en général. La deuxième métrique auquel on va s'intéresser, c'est l'uniqueness. C'est-à-dire, est-ce que, en plus d'être très loin du centre, est-ce que cette espèce, finalement, elle est unique d'un point de vue des caractéristiques qu'elle représente ? Ou est-ce qu'il y a plein d'espèces à côté qui ont des caractéristiques qui sont quand même assez proches ? Elles sont toutes éloignées de la moyenne, mais on peut avoir une autre espèce qui va la remplacer ou pas d'un point de vue de son rôle au sein de l'écosystème. Donc on va regarder à la fois la spécialisation d'un côté et leur unicité finalement de l'autre. Et on va multiplier cette information avec leur probabilité d'extinction due aux espèces envahissantes. Donc encore une fois, en utilisant le risque d'extinction documenté par l'IUCN. Est-ce qu'elle a une probabilité d'extinction très forte dans 20 ans ? Ou très forte plutôt dans 50 ans, ou est-ce que finalement c'est une espèce qui est peu menacée. Donc on a établi ce score pour pas mal d'espèces différentes, donc pour les différents groupes que je vous ai présentés, et ce score, il nous permet d'obtenir des listes d'espèces différentes. Alors je vais aller en détail un peu sur ces listes. La première liste, c'est la liste des espèces prioritaires. C'est-à-dire que ce sont des espèces qui sont très menacées, c'est-à-dire qu'on prédit que dans 20 ans ou 30 ans, elles risquent de disparaître, et à la fois, elles sont irremplaçables d'un point de vue fonctionnel. Donc, c'est-à-dire que si elles disparaissent, leur fonction au sein de l'écosystème disparaît également pendant 20 ans, elles ne pourront plus remplir leur rôle de top régulateur ou leur rôle de pollinisation ou de dispersion des graines, alors que personne d'autre peut les remplacer au sein de l'écosystème. La deuxième liste, c'est la liste des espèces potentiellement prioritaires, où là, on a également un risque d'extinction élevé prédit dans 50 ans, mais ce ne sont pas les espèces les plus exceptionnelles d'un point de vue fonctionnel. En gros, elles sont entre les 50 et 80% les plus exceptionnelles. Donc, elles sont au-dessus de la moyenne, mais elles ne font pas partie du top entre 80% et 100% des plus exceptionnelles. Et on a également deux autres listes. D'un côté, les espèces où on sait qu'elles ne sont pas menacées aujourd'hui, leurs effectifs sont encore de bonne taille, leur aire de répartition n'a pas encore subi de diminution trop importante en raison de la fragmentation de l'habitat ou de la pollution, etc. Mais elles sont exceptionnelles d'un point de vue de la diversité, fonctionnelle qu'elles représentent. Donc ça veut dire que ces espèces, elles sont à surveiller, car si leur effectif diminue, en termes d'aire de répartition du nombre d'individus, elles risquent de devenir dans cette liste prioritaire. Et enfin, ici, on a une liste d'espèces pour lesquelles on a des données manquantes sur leur risque d'extinction, mais qui sont exceptionnelles. C'est-à-dire que souvent, ce sont des espèces qui sont très difficiles d'accès, des espèces endémiques sur une montagne, par exemple, dans une île, où finalement, on n'a pas assez de moyens logistiques et humains pour aller comptabiliser leur population. Et donc, on a tout un cortège d'espèces comme ça, où on a des données manquantes, mais on connaît quand même, on sait qu'elles sont exceptionnelles d'un point de vue de diversité, mais on ne sait pas leurs effectifs, est-ce qu'ils sont dans un bon état ou dans un mauvais état aujourd'hui. Donc, on a fait cet établissement de liste pour les quatre groupes, les amphibiens, les oiseaux, les reptiles et les mammifères, et on a pu établir donc des liste des espèces prioritaires. Ce qu'on peut voir, c'est que ça concerne principalement les amphibiens, suivis par les oiseaux, les reptiles et les mammifères, qui donc ont un nombre assez important d'espèces qui sont concernées par à la fois menacées d'extinction et à la fois exceptionnelles d'un point de vue de la diversité qu'elles représentent. On a pu également établir des listes des espèces à surveiller et des listes d'espèces potentiellement prioritaires. Ce qu'on a regardé ensuite, c'est où ces espèces, finalement, se retrouvent dans l'espace géographique. Et donc ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, une grande partie des mesures de conservation qui sont effectuées à l'échelle mondiale, elles se font par rapport au site. C'est-à-dire qu'on définit des zones prioritaires à protéger. Et donc de savoir où les espèces menacées se situent, ça permet de mieux cibler les zones où on va développer des parcs nationaux, où on va développer des aires protégées. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des différences assez importantes, par exemple avec le groupe des oiseaux, qui ont des aires de répartition beaucoup plus vastes, mais également on peut voir en fait les îles ici qui ressortent pour le groupe des oiseaux et tout ce qui est ici sur les côtes. C'est-à-dire qu'on a des oiseaux marins qui sont particulièrement exceptionnels d'un point de vue fonctionnel et menacés par les invasions biologiques. Pour les amphibiens, on a plutôt les Caraïbes qui ressortent, mais également Madagascar. Pour les lézards, on a également la Nouvelle-Zélande, une partie des Caraïbes. Et pour les mammifères, on a l'Afrique évidemment qui ressort et une partie de l'Australie également. Donc ça permet également de mettre en évidence que quand on étudie la menace des invasions biologiques et les espèces qui vont être vulnérables à cette menace, c'est difficile en fait de considérer l'ensemble des groupes ensemble puisqu'on va avoir des réponses très différentes de quelles sont les zones menacées si on s'intéresse aux oiseaux, aux lézards ou aux mammifères. Et si on regarde par exemple ici le groupe des oiseaux et les espèces qui sont à protéger en priorité, parce que ce sont les espèces qui risquent de disparaître en premier en raison des invasions biologiques, on a par exemple dans le top 1 le kakapo ou le perroquet hibou, donc qui est une espèce qui est endémique également de Nouvelle-Zélande, qui fait plus de 60 cm, donc c'est plutôt une grande espèce, et qui est une espèce dont les caractéristiques aussi sont particulièrement uniques, puisque c'est le seul perroquet non volant qui existe au monde, le plus lourd, et dont la longévité également est le record, puisqu'on est en moyenne à 95 années de longévité, et on a des individus qui vont jusqu'à 120 ans. Donc c'est là où on voit aussi l'intérêt d'avoir ces espèces qui sont uniques fonctionnellement, de les mettre en évidence, parce que en fait, quand on perd ces espèces, on perd tout un cortège de molécules aussi issues de ces espèces et d'études de ces espèces auxquelles on n'a plus accès. Et comme vous le savez, une grande partie, par exemple, de la biodiversité nous sert de source également pour découvrir des nouvelles molécules pour les médicaments. Quand on perd ces espèces, on perd potentiellement, en fait, des médicaments futurs. Et notamment quand on a des espèces dont la longévité est aussi importante, de ne pas pouvoir les étudier, d'étudier leur physiologie, bah c'est tout un manque d'informations qu'on n'aura plus. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je vous ai montré, c'était l'établissement de ces listes prioritaires à l'échelle mondiale. Ce qu'on est aujourd'hui en train de faire, en collaboration avec le Muséum d'Histoire Naturelle et l'IUCN, c'est de décliner ces listes à l'échelle française et à l'échelle des territoires d'outre-mer. L'idée aujourd'hui, c'est que la France, elle a été signataire dans le cadre des objectifs pour la biodiversité avec l'Europe, de réduire de 30% l'établissement des invasions biologiques et de réduire de 50% les espèces menacées par les invasions biologiques aujourd'hui. Et donc, dans le cadre de ces objectifs, identifier ces espèces qui sont menacées, où elles se trouvent et lesquelles elles sont, va permettre justement de réussir ou d'essayer d'atteindre ces objectifs. Et donc c'est pour ça qu'on travaille en collaboration avec le Muséum, qui aujourd'hui est en train d'essayer d'établir ces listes, justement, à l'échelle française. Et également, ce que je voulais dire, c'est que moi, je vous ai parlé évidemment principalement des invasions biologiques, tout comme les cours de Franck, mais il faut avoir une approche qui est intégrative de la crise de la biodiversité. Puisque les invasions biologiques, ce n'est pas la seule menace qui pose sur les écosystèmes insulaires et de manière générale. Donc ici, je vous ai re-représenté les espèces. Chaque petit point, c'est une espèce au sein des écosystèmes insulaires. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, on voyait vraiment cette distinction où les invasions biologiques, c'était la principale menace qui avait expliqué les extinctions. Là, quand on regarde aujourd'hui les espèces qui sont menacées, en fait, on a multiplié les menaces. L'homme par la pollution, par le développement de l'agriculture, par le tourisme, à multiplier les menaces qui pèsent sur les espèces. On est à peu près à 3 menaces par espèce en moyenne dans les îles. Et donc, on peut difficilement s'attaquer aux invasions biologiques sans non plus regarder les autres menaces auxquelles font face les espèces. C'est tout un cortège en fait, d'interactions qu'il faut considérer. Et donc, on doit se placer à une échelle spatiale un peu plus haute, d'où l'intérêt de la macroécologie, de regarder finalement ce qui se passe à l'échelle de la diversité à grande échelle. Et également, en fait, dans le temps, moi, je vous ai parlé principalement des extinctions et du risque d'extinction aujourd'hui et finalement à des temps très contemporains, on est à 1500. Mais si on repart un peu dans le temps, en fait, les vagues d'extinction qui ont eu lieu en raison de la surexploitation des espèces, de l'agriculture et les invasions, puis le changement climatique qui arrive aujourd'hui, qui est d'ailleurs responsable de sa première extinction d'espèces recensées, montrent qu'on fait face à une multitude de pressions qui ont augmenté au fur et à mesure du temps pour l'ensemble de ces espèces. Donc des espèces qui n'étaient peut-être pas sensibles aux invasions biologiques, mais du fait d'avoir été soumises à d'autres perturbations et stressées, ont des effectifs qui sont déjà plus affaiblis et donc qui vont être moins en mesure de répondre également à la pression des invasions biologiques. Voilà. Et donc je voudrais également remercier l'ensemble des collaborateurs qui ont permis de vous présenter également ce travail, l'équipe Biome dans laquelle je travaille et évidemment Franck pour m'avoir invité à donner cette présentation aujourd'hui. Et si vous êtes intéressé par les différentes études que je vous ai montrées aujourd'hui, vous avez les liens ici sur HAL, qui sont des liens ouverts, qui sont les 4 grands travaux dont j'ai parlé pendant cette dernière petite heure. Voilà. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site. Collège-2-France.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.